France Musique.
Bon week-end, Nicolas Lafitte, et à très vite.
On va déborder un petit peu, le fichier se termine à 6h58 et 5 secondes. Est-ce que tu peux m'envoyer un petit peu de musique, s'il te plaît? Parfait pour le 1000. Est-ce que je peux te mettre à l'antenne?
Il y a du café?
Ouais, du café. J'arrive.
Bonjour à tous. Ce matin encore, dans Fabrication Maison, nous allons pousser la porte des coulisses de la maison de la radio pour vous faire partager sa vie musicale. Dans le portrait, nous découvrirons une autre facette d'un producteur que vous connaissez bien, François-Xavier Chemchak. Puis dans le reportage, avec Jérôme Sandlaz, nous fêterons les 45 ans de la chaîne FIP. 45 ans déjà. Ensuite, nous retrouverons nos rendez-vous du samedi matin, la chronique de la Maison Ronde avec Marie Fauché, les archives de Jean-Yves Pat, la lettre de l'un d'entre vous dans Parlez-moi de musique et Question de cœur avec Sophie Jeannin. On y va ?
France Musique.
François-Xavier Chemchak, j'ai bien prononcé votre nom ?
Bravo Dominique, Boutel, j'ai bien prononcé le vôtre.
C'est pas mal. François-Xavier, alors demain dimanche a lieu le deuxième concert de la série La Quête des Héros avec le chœur de Radio France, qui sera dirigé par Sébastien Boin. Je lis la programmation, Sébastien Boin à la direction, Mathias Lecomte à l'orgue, récitant François-Xavier Chemchak. Donc ça n'est pas la première expérience que vous avez de ce rôle de récitant, François-Xavier, qu'on connaît davantage à l'antenne comme producteur de radio.
Oui, l'année 2015 m'a donné l'occasion de participer à un concert avec le chœur de Radio France sur le thème des mythes fondateurs en lien avec une exposition au Louvre. Et Christine Gorier a établi des programmes dans lesquels elle m'a greffé en tant que récitant, ce qui est une grande joie pour moi. Et il se trouve que ça correspond à une démarche que je fais depuis quelques temps, puisque je suis une formation de comédien en marge de mes activités à la radio. Et cette première expérience avec Sophie Jeannin a été vraiment très forte, très intense pour moi, très belle, avec des choses à revoir, à parfaire. Mais je pense que les gens étaient plutôt satisfaits, plutôt contents de ce qu'on leur a apporté pour ce premier concert. J'espère que ce sera le cas également pour le deuxième et le troisième, puisqu'on aura un troisième après.
Alors c'est l'occasion, François-Xavier, pour les auditeurs de France Musique qui vous connaissent à l'antenne, peut-être de vous connaître un petit peu mieux à travers votre portrait musical. C'est parti. Alors on vient d'écouter une musique très tonique, François-Xavier, je vais vous laisser le soin de la désannoncer, ce sera beaucoup mieux si c'est moi qui le fais.
Oui, c'est une danse traditionnelle polonaise qu'on appelle Oberek, O-B-E-R-E-K, que connaissent les amateurs de Frédéric Chopin, puisque Chopin s'est inspiré en partie de cette danse traditionnelle qu'on trouve un peu partout en Pologne, c'est pas une région spécifique. Et le groupe qu'on entendait là, c'est un groupe qui a été fondé au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, qui s'appelle Mazovche, qui est un groupe de restitution de musique populaire de façon un peu plus lissée, un peu plus jolie avec cet orchestre symphonique. Ce sont pas des paysans qui jouent là, mais ils restituent une musique paysanne qui est très populaire et très célèbre en Pologne. Et j'ai commencé par cela parce que Dominique, vous m'avez demandé les musiques qui m'ont touché. Alors évidemment, en tant que producteur sur France Musique depuis 20 ans, des musiques qui m'ont touché, il y en a un nombre absolument incalculable. Donc je me suis plié à ce jeu-là en parlant peut-être des musiques dans l'enfance qui m'ont emmené là où j'en suis. Et évidemment, la première musique qui m'a touché, c'est la musique de la langue polonaise que m'a transmise en particulier ma mère, et puis mon père également, mais surtout ma mère. Et puis ces danses traditionnelles, on les dansait notamment dans le Nord-Pas-de-Calais, d'où je viens, communauté polonaise très très familiale et très tournée vers ces musiques traditionnelles et vers la danse. Ça, c'est vraiment un aspect très 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 important. Et ce groupe Mazovche, eh bien, on a toujours des 33 tours qu'on écoutait un peu religieusement, notamment pendant les fêtes de Noël.
Alors François-Xavier Szczemczak, ça a été l'occasion, c'est toute cette connaissance que vous avez du patrimoine chanté polonais, d'une expérience type un peu la petite Madeleine de Proust, on va dire.
Śpiły i coś tam kraszcze za mną.
François-Xavier Chemchak. C'est donc une expérience que vous avez vécue, cette expérience que vous venez nous faire vivre, en fait, l'association entre ces musiques traditionnelles et cette musique de Frédéric Chopin.
Ben oui, c'est une des sources des croisements musicaux que je fais, notamment dans mes émissions. On a entendu de nouveau ce groupe Mazovche avec une chanson traditionnelle qui s'appelle Laura y Filon, que j'ai entendue une dizaine de fois pendant mon enfance. Et puis un jour, je sais pas, vers une vingtaine d'années, j'ai découvert l'opus 13 de Chopin, cette fantaisie sur des airs polonais, qui n'est pas une des plus grandes œuvres de Chopin. C'est une œuvre de jeunesse pour piano et orchestre. Et c'était sous les doigts de Claudio Arao, c'est l'enregistrement qu'on vient d'entendre. Et puis en plein milieu, j'entends ça, Laura Filon. Je me dis, mais c'est ma chanson. C'est ma chanson. Et j'étais très, très ému de retrouver ça et de retrouver ses racines communes avec Frédéric Chopin, qui était franco-polonais. Donc autant la France et la Pologne sont très importants pour moi. C'était ça, vraiment. C'est une des sources de ces croisements-là. Il y en aura plusieurs autres, comme on va l'entendre dans cette programmation musicale.
Oui, parce que vous êtes, François-Xavier, un jeune homme de votre époque. À la fois, vous êtes marqué par la musique classique. Vous faites du violon, je crois, si vous êtes petit, non ?
Oui, j'ai commencé le violon à l'âge de 7 ans. J'en fais un petit peu moins aujourd'hui, mais j'ai pratiqué le violon. J'ai fait partie de l'orchestre de la Sorbonne. Et puis, j'ai fait du violon en musique de chambre, avec des gens notamment dont on entend les noms à la radio, comme par exemple Lionel Esparza, avec qui j'ai joué la première sonate de Brahms.
La radio, c'est une famille, on le savait déjà.
Et puis Béatrice Trichet, qui est réalisatrice ici, avec qui j'ai joué pendant longtemps de la musique de chambre. Voilà.
Mais ce qui ne vous empêchait pas d'être de votre époque. Alors, Wish You Were Here, des Pink Floyd, François-Xavier Chemchak, c'est quoi ces souvenirs-là ?
Alors ça, c'est un souvenir, je dirais, un premier souvenir musical lié à une expérience psychédélique. Je devais avoir à peu près 3 ans, en 1975, donc là j'avais 2 ans au moment de la sortie de cet album. Et il se trouve que mon père l'avait enregistré sur des bandes magnétiques. Et je me souviens tout petit... écouter cette musique-là et regarder les bandes qui tournent. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on ne travaille plus là-dessus, Dominique Boutel, mais si vous vous souvenez, à l'époque, les bandes en plein milieu étaient exactement égales. Et puis à un moment, la bande de droite se vidait et la bande de gauche se remplissait. Et l'une des bandes tournait plus vite que l'autre. Et j'ai le souvenir de regarder ça comme une sorte de kaléidoscope un peu psychédélique. Et puis cette musique des Pink Floyd, elle m'a touché dans ces expérimentations sonores que j'ai pu retrouver par la suite dans d'autres types de musique. Mais c'est une musique à laquelle je suis resté encore fidèle, qui me touche encore beaucoup aujourd'hui.
François-Xavier, vous étiez prédisposé pour la radio. Mais j'imagine que quand on est violoniste, quand on est jeune violoniste, il y a quelques héros, non, quelques personnes qui tout à coup vous tirent vers le haut.
Eh bien là, c'est encore pareil. Je rends vraiment hommage à mes parents qui venaient d'un milieu qui n'était pas très mélomane. Des musiques populaires chez mes grands-parents, un de mes grands-pères qui jouait de la mandoline, mais pas du tout une connaissance du répertoire que je présente sur France Musique aujourd'hui. Et malgré tout, il y avait des disques à la maison. Alors, il y avait ces Pink Floyd, il y avait des disques de musique populaire. Et puis, il y avait un 33 tours, c'était le concerto pour violon de Brahms, joué par David Oistrakh. Pareil, c'est un disque, on n'avait pas beaucoup de disques à la maison, celui-là je l'écoutais beaucoup écouté, en particulier le deuxième mouvement qui était marqué en plus par une histoire d'amour que j'avais 20 ans. Enfin bref, ça c'est autre chose. Mais surtout, c'est que je me suis rendu compte bien plus tard que cet enregistrement-là du concerto pour violon, c'était avec l'Orchestre National de la Radiodiffusion Française, donc notre Orchestre National de France, dirigé par Otto Klemperer.
Le destin continue à jouer. Alors c'était donc le deuxième mouvement du concerto pour violon de Brahms. Les interprètes, c'était le David Oistrakh, vous l'avez dit, François-Xavier Chemchak et l'Orchestre National de la Radiodiffusion Française qui était dirigé à l'époque par Otto Klemperer.
Je voulais préciser également que le oboïste solo, c'était Jules Gottgeluk qui avait un style de jeu de hautbois qui n'est plus celui des oboïstes aujourd'hui, mais qui est encore très, très touchant pour les musiciens de l'Orchestre National avec lesquels j'en parle aujourd'hui, notamment Philippe Pirlo.
Dans vos programmations musicales, François-Xavier, il y a un grand éclectisme. Vous êtes un amoureux d'un peu toutes les musiques ?
Oui, j'ai pas beaucoup de musique qui me laisse insensible. Je parlais peut-être leur rap que je classe.
C'est parce que vous connaissez pas.
Certainement, mais c'est un genre qui m'intéresse beaucoup, mais dans la catégorie que je classerais littéraire. Pas au point de vue musical, c'est pas quelque chose qui m'intéresse musicalement. En revanche, moi j'ai été marqué par le rock, j'ai été marqué par le funk, j'ai été marqué par ces musiques-là. Et puis, il y a une musique qui a une grande part peut-être pas dans mon enfance, mais surtout dans mon adolescence. Un professeur de solfège qui m'a fait découvrir Miles Davis. Et je suis rentré dans le jazz vers l'âge de 12-13 ans, et ça a été une folle passion que j'ai développée avec un de mes camarades, Vincent Leglève, qui était saxophoniste. Et tous les deux, on a développé cette passion pour le jazz en allant voir au concert des gens comme Barney Whelan, en allant voir Dizzy Gillespie, et puis surtout Miles. Alors, je n'ai pas été groupie de quelques fans que ce soit, mais je peux dire que si j'ai vraiment été fan de quelqu'un, c'était de Miles Davis. Je me souviens d'avoir même pleuré à sa mort, quoi.
Thank you.
Magnifique extrait des Sketches of Spain de Miles Davis. Miles Davis, que vous évoquez quand même une découverte assez fondamentale. Et en même temps, avec Miles Davis, et surtout dans cette œuvre-là, on n'est pas tellement loin du répertoire classique.
Oui, des extraits de musique de Miles Davis, j'aurais pu en passer plein d'autres qui m'ont marqué. Bien sûr, Kind of Blue, comme beaucoup de gens, on a été marqué par cet album-là. Sketches of Spain, c'est un cas un peu particulier. C'est-à-dire que ça date de 1960, comme l'enregistrement de Brahms qu'on a entendu tout à l'heure. C'est Miles qui grandit grâce aux autres. Et ça, c'est vraiment une leçon que moi j'ai reçue de ce musicien, de cet immense musicien qui a toujours réussi à se remettre en question et à se nourrir des autres, à se nourrir intelligemment des autres, que ce soit Charlie Parker, que ce soit par la suite Gil Evans, qui est l'arrangeur de cette partition qu'on vient d'entendre, qui est un extrait, et ça je l'ai découvert pareil, bien plus tard, un extrait de L'amour sorcier de Manuel de Falla. Là encore, jubilation au moment de découvrir ces croisements et ces rencontres musicales qui font un petit peu l'essence de mes émissions aujourd'hui, quoi.
Merci François-Xavier Chemchak. Alors je rappelle aux auditeurs qu'on vous retrouve, enfin peut-être pas aux auditeurs d'ailleurs, au public de la Maison de la Radio, qu'on vous retrouve demain dans ce concert que propose le Chœur de Radio France à partir de 16h à l'Auditorium. Qu'est-ce que vous allez nous raconter? Vous ne nous dites pas tout, mais un petit peu.
Après avoir évoqué la création du monde, on va parler de quelques héros comme Perceval ou Gilgamesh.
C'est pas mal, c'est tentant. Merci beaucoup François-Xavier, puis on vous retrouve tous les jours à 19h sur France Musique.
Merci Dominique. Thank you.
Un extrait du magnifique coffret édité pour les 80 ans de l'Orchestre National de France et que vous avez été nombreux à offrir pour Noël, j'en suis sûre. Et pour ouvrir cette année de célébration du compositeur Henri Dutilleux, né en 1916, un mouvement de sa première symphonie qui a été créé par l'Orchestre National de France le 7 juin 1951 au Théâtre des Champs-Élysées sous la baguette de Roger Desormières. Bonjour Jérôme Sandelaars.
Bonjour Dominique Boutel.
Alors aujourd'hui Jérôme, vous avez voulu rendre hommage à l'une des petites cousines de France Musique, c'est bien cela?
Vous avez des antennes hein Dominique?
Oui.
En effet, il y a quelques jours, mardi 5 janvier 2016 pour être précis, FIP fêtait son 45e anniversaire et ça m'a donné envie de me plonger dans l'histoire de cette belle radio réputée pour son éclectisme musical. Je ne sais pas si vous en souvenez Dominique, vous étiez sans doute trop jeune ou pas encore né pour cela.
Vil flatteur.
Mais c'est sous l'impulsion de Roland Dordain, directeur de la radiodiffusion à l'ORTF, que le réseau FIP a vu le jour à l'aube des années 70. Et c'est Jean Garetto et Pierre Caudou, les célèbres producteurs de L'Oreille en Coin sur France Inter, qui en ont imaginé le concept. À l'origine, il s'agissait d'une radio musicale urbaine d'accompagnement et de service, une radio destinée avant tout aux Parisiens. 60 minutes de musique par heure, jazz, blues, musique classique et populaire, ponctuées par des interventions de voix féminines, au ton décalé pour donner une foule de conseils pratiques, météo, points circulation, infos culturelles, et des bulletins d'information présentés une fois par heure par une mini-rédaction propre à FIP. À ses débuts, la radio émettait sur le 514, un petit émetteur parisien qui arrosait jusqu'à 50 km à la ronde autour de Notre-Dame. Au fil des ans, FIP, forte de son succès, s'est développée et émet à présent dans 10 villes de France, parmi lesquelles Bordeaux, Nantes, Strasbourg, Montpellier, Marseille, Toulouse et sur Internet, bien sûr. Aujourd'hui, elle diffuse 35 000 titres différents et plus de 100 artistes en live chaque année. Roland Dordain, Jean Garetto et Pierre Caudou, les pères de FIP, nous ont malheureusement quittés, tout comme Chris, sa première animatrice, mais leur voix résonne encore à l'esprit de celles et ceux qui la fabriquent aujourd'hui. Allez, c'est parti pour une plongée d'un quart d'heure dans l'univers de cette élégante radio. 21 décembre 1970.
Interactualité, Michel Forgit. Nous sommes à la période des cadeaux de fin d'année, et bien France Inter ne faillit pas à la règle et offre un cadeau de Noël à ses auditeurs parisiens, une station de radio pour eux seuls.
Oui, le 5 janvier très exactement, aujourd'hui nous avons connu une journée d'essai, les Parisiens découvriront une nouvelle station de radio, France Inter Paris, qu'on appellera FIP 514.
Roland Dordain.
Et cette radio France Inter Paris que nous lançons au moment du Salon de l'Auto, c'est un petit peu la radio qui les accompagnera 17 heures par jour, dans leur voiture, au bureau, lorsqu'ils seront rentrés chez eux, et qui leur apportera un programme de disques comme on n'en a jamais entendu pour l'instant. Un programme de détente et non d'excitation.
Respirez, vous êtes sur FIP.
21 décembre 2015. Alors là, on est au cinquième étage, entre la porte C et D de la maison de la radio. juste devant le bureau de Patrick Derlon, programmation musicale.
Voilà.
Ah, vous m'entendiez pas?
Ça a frappé, ben non, je suis en train de faire un programme, j'écoute la musique à fond, donc je vais arrêter ça déjà. Alors ça, maintenant, vous avez reconnu.
Ne serait-ce pas une version instrumentale du fameux titre d'Amy Winehouse,
Rehab. Ben voilà, c'est ça.
Ça consiste en quoi, votre travail, Patrick Derlon?
Tous les jours, en tant que programmateur à FIP, on fait 3 heures d'enchaînement. Et puis, durant ces 3 heures, on brasse tous les styles, toutes les époques. Voilà, les nouveautés, les vieilleries. On mélange tout ça, quoi. Jazz, français, anglo-saxon, pop-rock.
Comment ça se conçoit une programmation sur FIP?
Ça dépend déjà de la tranche. On ne programme pas une tranche de 7h à 10h comme on programme un 10h-13h ou un 13h-16h ou une tranche du soir. Là, on arrive avec le trio Valor et Rehab, mais on arrive au milieu du programme. Il est 15h et quelques. On partait sous le ciel de Paris, qui est une version chantée par une femme, une capverdienne, qui chante en français, donc elle a un petit accent. Bon, on va en écouter un petit bout pour se donner une idée.
Sous le ciel de Paris, il voit une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon.
Sous le ciel de Paris, oui, ça me fait penser à Paris. Et puis on entend derrière ce qu'elle joue, elle, à la basse, parce que c'est une bassiste et chanteuse. Et on entend le tout, 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 tout. Et ça, dans mon esprit du moment, mélangé à l'idée de Paris, ça me donne une valse. Je vois une valse manouche. Et ben, du coup, je la mets. Là, on écoute Titi Winterstein, qui vient juste après cette capverdienne, Carmen Souza. Et puis, ce petit morceau instrumental m'a amené au chanteur canadien Léon Redbone, qui lui a fait un album sur plus ou moins sur Django Reinhardt, sur les Gitans. Et j'ai mis une chanson de Léon, donc Your Heartbreaker.
Your heartbreaker, lovebreaker, but you can't break my heart anymore.
Your heartbreaker, tu m'as brisé le cœur, machin. Du coup, j'ai dit, ah tiens, il s'est fait briser le cœur par une vilaine fille. Donc, j'ai mis une autre chanson d'un type qui chante un peu comme Léon Redbone, qui s'appelle Pocky Lafarge. Ça, c'est très récent, ça date de cette année, 2015, qui lui chante Bad Girl. Le voilà.
My mom said that she thought you were a part angel and part saint. But you're quite used to convincing people of everything you ain't. You're a bad girl.
Bad girl.
You're a bad girl.
Bad girl.
Soon they'll all be on to you.
Et puis, bad girl, ben ça m'a fait penser à Amy Winehouse, la pauvre, oui, la vilaine fille. Et puis, Amy Winehouse m'a amené à ce fameux titre Rehab, qui est sur la cure de désintoxication, qui m'amènera certainement vers l'alcool après, vers... Ça raconte quelque chose, et c'est une programmation qui est donc réfléchie, et ça, aucun logiciel, aucun logarithme ne peut penser comme ça. Relier les disques les uns avec les autres, ce sera toujours différent et toujours meilleur pour l'inconscient que de poser des titres les uns derrière les autres. C'est ça qui est important, donner du sens. On est tous en quête de sens, on recherche le sens. Et si on tombe sur une radio qui a du sens, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, on y reste accroché. Et les auditeurs de FIP écoutent FIP très longtemps. Mais il faut se souvenir qu'en 71, si on voulait écouter de la musique en radio, en fait de la musique, oui, pas de la variété, mais de la musique, c'était FIP ou rien. Et le trait de génie de ces deux types, de Code Garetto, c'est plutôt que de proposer un top 50... Ils ont préconisé le classique, qui était complètement enterré, musique savante pour les initiés, et le jazz, qui était pareil que le classique, relégué aux émissions spécialisées après minuit, quoi. Et eux, ils ont eu cette idée magnifique de dire, on va mettre ces musiques dites savantes en milieu de journée, et de temps en temps, une chanson. Et ça, c'est magique, parce qu'ils avaient aussi le monopole de la radio, de la diffusion, et ce monopole, ils s'en sont servis pour cultiver une génération. Et ça continue encore.
À 3h10, c'est FIP que vous écoutez. La musique vient par ici, c'est-à-dire sur le 90.4, la fréquence de FIP. Mais à partir de samedi, la musique viendra par là, sur le 105.1, la nouvelle fréquence de FIP.
Une chaîne de radio destinée aux gens qui sont très énervés et qui ne peuvent plus rien supporter d'autre.
Alors là, on met de la musique et des voix douces, 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 douces.
On a procédé par écoute.
Jean Garetto.
C'est-à-dire que le bruit avait couru qu'il y avait une nouvelle radio qui se faisait et il y avait plein de postulantes. Je dis postulantes parce qu'on avait fait savoir qu'on ne voulait que des voix de femmes. On ne les voyait pas, on les cachait pour ne pas être influencé par leur physique. On a voulu jouer avec les cordes vocales et non pas l'esthétique.
Comment est-ce qu'on devient speakerine de FIP ?
Bien, on rencontre Kodou et Garetto.
Chris.
On fait des essais, on vous enferme dans un studio avec des textes de la préfecture de police, très austères, et on vous demande de les réécrire bien. Et puis si c'est bien, si on a une voix douce, si c'est écrit gentiment, bien on est engagé.
Come home for Christmas. Alors plutôt que de ressortir la compile de Tino Rossi, à FIP, on opte pour le nouvel album de Sharon Jones pour fêter Jésus à l'ancienne. Dans la soul rétro, dont la dame est une éminente spécialiste, et ce, dans le monde entier, s'il vous plaît. Sharon Jones and the Dap Kings, je les ai comptés, ils sont 10 au total, sortent ce nouvel album It's a Holiday Soul, 10 chansons pour une belle sélection FIP à glisser sous tous les sapins de Noël.
Alors c'est Jeanne Vinet là qu'on vient d'entendre à l'antenne. On est dans le studio 154 de FIP au 5e étage de la maison de la radio. Jeanne Vinet, est-ce que le ton des animatrices de FIP a beaucoup évolué en 30 ans ou 35 ans ?
Ah oui, il a évolué, bien sûr. Lorsque je suis arrivée, en 82, on parlait encore avec ce que Chris appelait les voix « wawa », c'est-à-dire une voix comme ça, enfin un peu Fanny Ardant, quoi. Les voix d'aéroport, qui font fantasmer, enfin qui vous emmènent loin. Des voix pour voyager. Et les mots d'ordre étaient « suavité », douceur, complicité, humour, et c'était tout à fait pensable, faisable, de un peu snober l'auditeur. C'est ce qu'on nous demandait et c'était raccord à une époque. Et en 90, on parlait déjà plus comme ça, on parlait naturellement. Mais l'humour, je pense que ce qu'il faut garder dans l'esprit de FIP, c'est l'humour. L'humour des animatrices. Voilà, la programmation de FIP change, l'animation change, normal. C'est une radio qui a 45 ans aujourd'hui et qui doit rester in.
Anne Sérode, là on est le 5 janvier 2016, vous êtes la directrice de FIP. À quoi on peut s'attendre pour l'anniversaire de cette belle radio ?
Setshine est née le 5 janvier 1971 et depuis 45 ans, elle a toujours été synonyme d'excellence musicale. Et donc, pour l'anniversaire de FIP, on a décidé de se déployer encore plus fortement dans l'univers numérique et de faire des petits bébés, qui sont donc nos web radios qu'on lance aujourd'hui même, qui sont donc au nombre de 6. Donc, quand vous arrivez sur notre site fipradio.fr, vous avez le player qui vous permet d'écouter l'antenne, mais vous avez aussi des petits logos qui vous montrent FIP autour du rock, FIP autour du jazz, FIP autour du groove, autour du monde. Évidemment, vous aurez compris peut-être le clin d'œil autour de, c'est pour bien montrer que ce n'est pas une web radio exclusivement rock, mais comme à FIP, on se permet de traverser toutes les frontières, on se balade autour du rock, donc on va dans la pop, on va dans d'autres univers, idem pour le jazz, on est autour du jazz, donc oui, il y a du jazz, mais on peut se permettre aussi d'aller vers le blues. Tout nouveau tout FIP, qui est une web radio qui va être consacrée aux nouveautés. Et une chaîne spéciale qui s'appelle FIP 1971 et qui donc présente la playlist qu'on jouait à l'ouverture de la chaîne. Donc là, je clique, hop.
Et là, on arrive sur une fenêtre. Vous écoutez FIP il y a 45 ans et c'est l'album de Marvin Gaye, What's Going On. On l'écoute ?
On peut se promener dans tous ces univers-là, qui sont des univers FIP, et revenir sur l'antenne quand on a envie de retrouver le mélange des genres.
Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite, Anne Sérode, en tant que directrice de FIP ?
Toujours de plus belles musiques, toujours de plus beaux moments musicaux, et puis que ce rêve se poursuive, continue à ravir les oreilles des auditeurs, c'est ce qui nous fait le plus plaisir.
Alors, Jérôme Sandelaars, cette radio est toujours vivante ?
Bien sûr, toujours aussi vivace. Et FIP organise régulièrement des lives, à raison d'une fois par mois. Le prochain rendez-vous, c'est le 25 février, à partir de 20h, au studio 105 de la Maison de la Radio. Et ce sera en compagnie du chanteur belge Arnaud.
À bientôt, Jérôme Sandelaars, et merci.
À très bientôt.
La chronique de la Maison Ronde. Bonjour Marie Fauché.
Bonjour Dominique, bonjour à tous.
Alors ces jours-ci, Marie, à la Maison de la Radio, le répertoire de la musique tchèque est à l'honneur.
Oui, hier soir, l'orchestre philharmonique qui interprétait le double concerto et la pièce pour orchestre intitulée La Bagarre de Bohuslav Martinů. Jeudi prochain, le 14 janvier, l'Orchestre National donnera la 8e symphonie de Dvorak. Et vendredi 15, à nouveau, l'Orchestre philharmonique interprétera Martinů et également Joseph Souk. En ce moment où le mot « identité » est de tous les débats, j'ai voulu faire un petit parcours de l'identité musicale tchèque du 19e siècle.
Bonne idée.
Parce que s'il y a bien une musique qui a une résonance particulière auprès de son peuple, c'est bien la musique tchèque. Depuis sa prison, Václav Havel avait demandé à l'occasion d'un réveillon de pouvoir écouter la fiancée vendue de Smetana et de le partager avec les autres détenus. C'était un acte presque politique. Václav Havel savait que cette œuvre portait les trésors de l'âme tchèque. Thank you. Géniale interprétation de Nicolas Harnoncourt dans l'ouverture de La fiancée vendue de Smetana. Smetana, Janáček, Dvorak, Souk, Martinou, tous ont un point commun qui est de taille. C'est d'avoir puisé dans le répertoire populaire de leur pays ou de s'en être inspiré en l'intégrant à leur propre musique. Ils ont participé activement à redéfinir l'identité de leur culture en réponse à l'hégémonie autrichienne. C'était une façon de clamer, parfois avant l'heure, l'indépendance de leur pays. Voici un extrait des variations sur un thème slovaque de Martinou, l'une de ses dernières œuvres, qui est une ode à son pays, qu'il n'a jamais pu retrouver après sa fuite du régime nazi.
C'est Michel Kanka, le violoncelliste du Quatuor Prajak, accompagné de Klepak Jaromír au piano, qui interprétait cette variation sur un thème slovaque de Bohuslav Martinou.
Cette variation comme un chant du cygne qu'il composa quelques mois avant sa mort. Lors des deux concerts à venir de l'Orchestre National et de l'Orchestre Philharmonique, on entendra des œuvres, je le rappelle, de Martinou, Souk et Dvorak. Tous trois forment comme une chaîne, puisque Martinou était l'élève de Souk, lui-même élève et gendre de Dvorak. Prague fut le lieu de leurs rencontres respectives et c'est aussi le titre d'un poème symphonique de Joseph Souk. S'inspirer de la nature et des paysages, puiser dans le répertoire populaire ou se référer à l'histoire, ce sont les différentes manières d'invoquer en musique la couleur d'une culture, d'invoquer ce qui est au-delà du langage mais qui pourtant se partage. La messe glagolitique de Janáček est un magnifique exemple qui touche aux racines de la Bohème et de la Moravie. Elle est chantée en glagolitique, l'alphabet du 9e siècle slave, qui est à mi-chemin entre l'alphabet grec et l'alphabet cyrillique. C'est une œuvre qui semble venir de la nuit des temps, bien que très personnelle et singulière.
Thank you.
C'était la News Day de la messe glagolitique de Léo Janáček, interprétée par Marek Janowski à la tête des chœurs et de l'orchestre de la radio de Berlin, avec Aga Mikolaj soprano, Iris Vermillon contralto, Stuart Nell ténor et Arutyun Kochinyan basse.
Et pour poursuivre ce parcours tchèque, rendez-vous jeudi et vendredi prochain à la Maison de la Radio à 20h pour les concerts de l'Orchestre National et de l'Orchestre Philharmonique. Ces deux concerts seront diffusés en direct sur France Musique.
Merci Marie Fauché, à la semaine prochaine. Agenda. Après les fêtes, c'est la reprise de la saison musicale à Radio France. Dimanche 10 janvier à 21h au studio 104, concert exceptionnel proposé par France Inter avec un plateau exclusivement féminin, la chanteuse londonienne Alani et Yael Naïm. Mardi 12 janvier à 20h au studio 106, Frédéric Lodéon reçoit Renaud Capuçon et ses amis. Une émission publique qui sera diffusée le jour de la journée spéciale que France Musique consacre aux violonistes le 27 janvier. Jeudi prochain, rendez-vous hebdomadaire avec l'Orchestre National de France qui sera dirigé par James Conlon avec en soliste le jeune pianiste russe Daniil Trifonov. C'est en direct sur France Musique. En direct également, vendredi 11, l'Orchestre Philharmonique de Radio France sera dirigé par Yacoub Rouza et recevra le violoncelliste Johannes Moser dans le concerto de Martinou. C'est à l'auditorium à 20h.
France Musique.
Veuillez écouter un reportage d'actualité.
Veuillez écouter notre concert de musique de chambre.
Le monde fabuleux des archives sonores. Bonjour Jean-Yves Pat.
Bonjour Dominique, bonjour à tous.
Alors Jean-Yves, ce matin vous avez décidé de faire votre cirque.
Oui, je fais mon cirque. Et c'est très intéressant de faire son cirque à la radio, parce que c'est une histoire d'amour en fait, le cirque et la radio.
Allons bon.
Le cirque et la technique en général, vous allez le voir. Le cirque a très vite essayé de prolonger ses spectacles ou souvenir du spectacle au travers du phonographe. Tiens, c'est un sujet qui m'intéresse. Au travers de la radio aussi, les artistes sont nus au micro des grandes radios, voire ont accueilli des émissions de radio pendant les cirques, des radios crochets. Savez-vous qu'Edith Piaf, Luis Mariano ont chanté dans les cirques, qu'on a reçu des jeux dans les cirques qui servaient d'attraction, d'intermède.
Donc, il y a le jeu des 1000 francs.
Du genre le jeu de 1000 francs, etc. Il y a eu une sorte de mariage entre la radio et le cirque. Et puis, et il y a eu aussi le cirque et l'opérette au travers d'un ouvrage que vous connaissez bien, Les Saltimbanques de Louis Gann. Donc, il y a un vrai sujet qui peut nous intéresser ce matin entre technologie, ouverture aux ondes et ouverture à l'art lyrique. Alors, tout d'abord, une curiosité. Enregistré en 1900, Monsieur Jim, le xylophoniste du cirque d'hiver.
Bien, reste bien, selon le xylophone, il est écouté par Monsieur Jim.
Il tape sur quoi, le monsieur, maman?
Il tape sur un xylophone, ma petite fille. Et c'est un instrument relativement neuf à l'époque, donc c'était une curiosité. Et le cirque, vous savez, aime à montrer les curiosités. Il a adopté les fauves au 19e, alors que c'était essentiellement les chevaux. Il va adopter les instruments bizarres, les grands orchestres. Et donc, petit à petit, il va se tourner vers d'autres formes. Et alors, j'en veux pour preuve l'enregistrement suivant, qui est la marche de Michel Strogoff, qui était quand même un des spectacles phares du Châtelet, et qui est devenu une distraction du cirque. Et là, je crois qu'on va écouter en entier, c'est du Nanan.
Merci, messieurs, dames, bonsoir. Dites-moi, vous êtes encore là tous les deux. Vous êtes toujours là. Mais dites-moi, je vais vous en faire une question. Dites-moi, combien d'années vous êtes dans ce métier? Combien d'années nous sommes artistes?
Oui.
Là là.
Combien?
On est 90 ans, on est 10 ans artistes, nous jouons.
90 ans?
Oui, monsieur.
Et quel âge avez-vous?
45. Oui. Comment? Vous riez?
Mais oui.
Oui, mais 45, ça se casse, ça fait 90 ans.
Non, je vous demande combien des années mais vous
dites, n'aiguillez pas, mais vous savez, nous, quand moi et Albert, on avait 5 ans, Victor Marguerite nous a écrit un acte pour nous.
Oui. Victor Marguerite?
Oui.
Il vous a écrit un acte pour vous?
Certainement.
Eh bien, moi, c'était plus fort. Quand je suis venu au monde, on a écrit un acte pour moi.
Oui. Quand vous êtes venu au monde?
Oui.
Et quel acte?
Eh bien, mon acte de naissance. Écoutez, maintenant, nous allons jouer un autre morceau. Nous avons joué deux morceaux à pied avec... Nous allons jouer un morceau à cheval.
À cheval? Avec quelle trompette?
Oui, avec les trompettes d'automobile.
À cheval avec des trompettes d'automobile?
Nous allons jouer la marche de Michel Strogoff.
C'est ça, la avec... marche de Michel Strogoff.
Avec toute la cavalerie.
Cavalerie à 11 chevaux.
Maestro.
Bravo.
Donc on écoute à la voix quand même des frères Fratellini, ça rappelle certainement un certain des souvenirs.
Il fallait être jeune, hein, en 1932 quand même.
Ah bah, très jeune, oui. Et l'orchestre du maestro Pompeo. Et oui. Tout ça, c'était la marche de Michel Strogoff.
Oui, introduite par des bonnes blagues.
Ah oui, des super bonnes blagues. Disque Odéon, Paris, 1932.
Ouais, vous avez pu noter quand même que le tempo était sérieusement ralenti, parce que les klaxons de voiture n'ont pas la réactivité des trompettes.
On a peur de rien aussi.
Ben non, il faut pas.
Alors, vous évoquiez tout à l'heure une opérette, Les Saltimbanques.
Oui, Les Saltimbanques, composée par Louis Gann en 1899, donc à la fin du, à l'extrême fin du 19e siècle, qui raconte l'histoire d'un cirque ambulant, les pérégrinations amoureuses, les troubles, les doutes, etc. Enfin, c'est une opérette légère qui a eu un succès extraordinaire et qui a été repris jusque dans les années 60. Ça fait quand même près de 60 et quelques années de spectacles non-stop et qui a fini d'ailleurs par être un spectacle de cirque. Et certains cirques ont choisi de monter cette opérette avec des attractions qui ne sont normalement qu'évoquées dans l'œuvre de Gann et qui étaient montrées pour de vrai, le cheval, la dresseuse de Lyon, la danseuse, le petit soldat, etc. Et donc je vous propose de retrouver deux moments phares de cette opérette. Tout d'abord, la célèbre chanson, je suis sûr que vous la reconnaîtrez, c'est l'amour qui flotte dans l'air à la ronde, l'amour et la liberté qui sont évidemment les phares des forains.
Pardon, mais reconnu.
Elle a la voix claire, mademoiselle Lemichel du roi du Trianon lyrique.
Oui, et est-ce que l'amour dont elle parle vous a aussi rendu la liberté?
Alors, faut que j'y réfléchisse, Jean-Yves.
Parfois, c'est une contrainte, je suis bien d'accord.
Bon, on s'arrête. L'orchestre, direction Jean Lenoir, restons sobres. Disque Polydor, Paris 1930.
Voilà. Et alors, pour conclure cette opérette, qui a une petite opérette en trois actes, je vous propose un enregistrement rarissime. D'abord, la marque ne vous dit rien. C'est un disque Ibled. Sachez que Ibled, c'était du chocolat. Le chocolat Ibled faisait sa propre publicité. Il y a eu des disques en chocolat, oui, malheureusement perdus. Et le chocolat faisait sa publicité en pressant des disques et même en ayant quelques phonographes avec des têtes de lecture marquées chocolat Ibled.
Non.
Donc, et c'est assez difficile à trouver. Et je vous propose d'entendre par Robert Gisors de la Gaîté Lyrique cet air Va petit soldat. Alors vous verrez, la trompette me réveille, je dois aller, je vais être hébergé chez une belle jeune femme dont le mari est jaloux, etc.
Ne nous dites pas tout.
Ben, c'est l'amour.
Sous la trompette militaire marche le pas du régiment. Les l'aube résonne gaiement et déveille la ville entière. À nos joyeux taratata, les bourgeoises, les grandes dames veulent voir passer les soldats et jamais du tout dans leur âme. Et chacun se dit, femme ou bien mari,
Allez, va, petit soldat.
Oui, le clairon t'appelle.
Le clairon t'appelle. Donc, c'était Robert Gisors de la Gaîté Lyrique qui chantait cet air extrait donc de cette opérette, Les Saltimbanques de Louis Gann.
En 1922.
En 1922. Voilà. Et c'est un disque Ibled.
Le fameux chocolat Ibled. Vous en prendrez bien une tasse.
À la semaine prochaine, Jean-Yves. Et voici notre rubrique « Parlez-moi de musique » dans laquelle vous nous confiez vos souvenirs musicaux. Ce matin, nous découvrons le souvenir de Catherine Delhomme. J'avais un rendez-vous en mai pour une exposition dans un village de roses chez Digny en Touraine et j'étais en avance. Étonnée par ce beau village, j'en fis le tour et garais ma voiture sous un très joli rosier grimpant qui croulait sous les premières roses saumonées du printemps 2011. Il faisait doux et je me sentais particulièrement bien. L'autoradio était allumé et j'attendais en rêvant.
Yeah, I'm like,
J'entendis soudain une voix de femme superbe, veloutée, sensuelle, aérienne, accompagnée d'un instrument qui me sembla méditerranéen. Un très bel air, quasiment religieux. Subjuguée, j'attendis la fin du morceau pour connaître le nom de la chanteuse. Montserrat Figueras. Je ne savais rien d'elle. Peu après, la télévision diffusait un documentaire sur elle et sa famille et j'appris qu'elle était l'épouse de Jordi Savall et quelle famille merveilleuse ils formaient, une famille imprégnée de musique. Quelques mois après ma rencontre sous les roses, Montserrat Figueras disparaissait et j'en fus sincèrement attristée. L'année suivante, Jordi Savall donnait un récital en août dans le cadre du Festival de Richelieu en Touraine, un lieu intime dans le dôme vestige du château du grand cardinal de Richelieu. La salle était ronde. Nous étions tout près de Jordi Savall, avec sa viole de gambe et Xavier de la Torre qui jouait du théorbe. Le moment fut magique. Nous nous laissions porter par la musique de cet homme, si paisible, à la voix douce, sublime. Il avait une pochette en cuir, brodée, d'aspect ancien, qu'il posait précautionneusement près de lui et qu'il prit avec lui lors des interruptions. Jamais il ne laissa cette pochette seule. Elle contenait peut-être des cordes de rechange, je ne sais pas, mais je me plus à imaginer qu'elle contenait une relique de Montserrat Figueras, des cheveux qu'elle avait si longs et beaux. Et j'imaginais qu'elle nous entendait de là-haut, qu'elle était près de lui. Pour illustrer le souvenir musical de Catherine Delhomme, nous écoutions la voix de Montserrat Figueras dans « Gare comme les barres » extrait du disque « Lux Femina », puis un extrait de la folia jouée à la viole de gambe par Jordi Savall, bien sûr. Ce sont vos souvenirs qui nourrissent cette rubrique, alors n'hésitez pas à nous envoyer vos textes que je me fais toujours un plaisir de lire à cette antenne. Question de cœur. Bonjour Sophie Janin.
Bonjour.
Sophie Janin, tout ce mois de janvier, nous allons aborder la question des répertoires. Alors d'abord sur le plan de la langue, c'est vrai que depuis que vous dirigez le chœur et la maîtrise de Radio France, je pense que vous avez un peu élargi les répertoires et c'est vrai que vous leur faites chanter pas mal de choses assez étranges, du finnois, du suédois, de l'estonien. Je pense que les chœurs sont un peu familiers de la langue anglaise, de la langue allemande éventuellement. Mais comment est-ce qu'on aborde toutes ces langues étrangères avec les chœurs, qu'ils soient des chœurs d'enfants ou des chœurs d'adultes?
Eh bien, je pense qu'il y a en effet un répertoire de base, on va dire, pour tout chanteur, que ça soit en français, italien, allemand, latin même, russe très souvent aussi. Mais quand on va au-delà, je pense qu'il y a très peu de gens qui sont experts dans toutes les langues chantées finalement. Eh bien, je crois que l'approche est différente si on est avec les enfants de la maîtrise ou les chanteurs du chœur.
Parce que
les élèves de la maîtrise n'ont pas encore la formation d'un chanteur professionnel, bien évidemment. Donc c'est vrai que on doit tout aborder sur un plan de diction et même phonétiquement avec les enfants pour justement, imaginons qu'ils chantent un texte en allemand et qu'ils n'ont pas d'allemand au collège enseigné, eh bien il faut s'y prendre bien évidemment sémantiquement aussi pour qu'ils comprennent le sens des mots qu'ils chantent, mais après sur la production même des sons, il y a un certain travail à fournir. Avec le chœur, c'est différent dans ces langues-là parce qu'ils ont déjà dans leur formation déjà un parcours où ils ont eu des cours de diction, de mélodie, de lead, etc. dans différentes langues. Il y a cependant un travail d'homogénéité de voyelles à faire, un travail très important sur la lisibilité du texte parce que la musique est quand même portée par un texte pour le chanteur très souvent. Donc il y a quand même un travail spécifique et phonétique aussi à faire avec les professionnels. Moi, j'avoue que je fais quand même intervenir des spécialistes dans oui. certaines langues.
J'allais vous le demander, oui. Je pense au hongrois, par exemple.
Bien sûr, en hongrois, je consulte aussi des coachs pour l'estonien, pour le tchèque, pour le russe, pour le slavon. Il y a tellement de facettes, finalement, dans la musique vocale ça fait du bien, quand même, d'avoir l'appui d'un spécialiste dans certains domaines. Et puis, même quand on chante en français, c'est pas si évident de chanter dans la langue française. On a des voyelles nasales, on a des inflexions de voyelles aussi, on a une luminosité très différente par rapport à beaucoup de voyelles. Et c'est aussi une langue qui n'est pas prononcée dans le même endroit dans la bouche que d'autres langues. Par exemple, si je travaille avec un chœur nordique, ils vont avoir beaucoup de facilité à faire des consonnes dentales, à avoir une diction très à l'avant de la bouche, tandis qu'avec un chœur français, j'aurai très souvent à ramener cette façon de prononcer plus vers l'avant de la bouche. Et c'est bien évidemment également vrai dans le sens contraire, c'est-à-dire un chœur du Nord, pour qu'il chante en français, pour qu'il relâche bien la mâchoire pour avoir la rondeur des voyelles, pour qu'il sente que justement les consonnes ne se prononcent pas de la même façon. Voilà, il y a ce travail à faire qui dépend du parcours culturel de chaque chœur.
Donc en fait, il y a un travail linguistique et un travail presque physiologique.
Ah, tout à fait, les deux vont ensemble.
Merci Sophie. Pour illustrer notre question de cœur avec Sophie Janin, nous écoutions un extrait du concert que la maîtrise de Radio France, augmentée de la maîtrise de Notre-Dame, donnait à la cathédrale Notre-Dame le 24 novembre dernier, au programme Grieg, le psaume opus 74. Et pour finir, il y a des places de concert à gagner dans Fabrication Maison ce matin. Pour le concert dont je vous ai parlé tout à l'heure, celui du 15 janvier à 20h, l'Orchestre Philharmonique de Radio France sera dirigé par Yacoub Roucha et le soliste sera le violoncelliste Johannes Moser, que l'on entendra dans le concerto de Martinou. Au programme également, Stravinsky et Souk. Pour gagner des places, c'est simple, il suffit de vous inscrire sur le site de l'émission, sur le site de francemusique.fr. C'est donc la fin de cette émission qui a été réalisée avec la complicité de Pauline Boisaubert, de Philippe Petit, de Cécile Gissot et de Xavier Atto. À très vite.